Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584€ après déduction prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC.
RMC, le week-end des experts, 7h-8h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset.
Nous voilà de retour, le week-end des experts, la maison, Christian Pesset est à mes côtés comme chaque samedi entre 7h et 8h sur RMC. Et on va maintenant donc nous intéresser à cette rentrée, la rentrée étudiante bien sûr, qui est toujours, source de stress, notamment concernant les logements, parce que quand on étudie à côté la maison, il n'y a pas de problème. Mais souvent on est obligé, de par des spécialités, partir du cocon familial pour vivre dans une région ou dans une ville.
Et puis on a souvent le résultat d'affectation tardivement, donc ça peut aussi être le cas d'une mutation professionnelle. Il y a aussi des jeunes qui travaillent dans ce pays, il y en a quelques-uns.
Heureusement.
Donc ça peut aussi être là. Donc on va se demander s'il est effectivement encore possible de trouver un logement. Est-ce que Internet est une solution fiable? Comment on va constituer ce dossier? Quelle garantie un propriétaire peut exiger? Toutes ces questions, on a deux invités aujourd'hui avec nous pour répondre à ces questions. William Villard, bonjour.
Bonjour Christian.
Bonjour. Vous êtes responsable, William. Fondateur d'Immojeune.
Directeur général
d'Immojeune.com. Donc, et puis nous aurons en ligne David Rodriguez qui est juriste à la CLTV.
On l'a pas tout de suite, il va arriver.
Mais donc nous l'aurons avec nous dans quelques instants pour parler donc des contrats de location, etc.
Si vous avez des questions sur ce sujet, bien évidemment dès maintenant le 3216 ou bien l'appli RMC Direct Studio, allez-y.
Donc William, c'est la bonne question, la question basique, est-ce qu'il est encore temps?
Heureusement Christian, heureusement qu'il est encore temps de trouver un logement étudiant pour cette période.
Oui.
Pour être bien en avance justement sur la haute saison, c'est vrai qu'il est préférable de trouver son logement, de chercher son logement, on va dire, après les résultats. Après, c'est pas trop tard de chercher son logement en août, mais tout simplement, il y aura moins d'offres, moins de diversité, moins de disponibilité bien concrètement sûr.
Mais c'est pas la peine de se mettre en boule par terre en sanglotant, on peut trouver quand même.
Il faut pas paniquer.
Même si c'est pas la période idéale.
Exactement. Il faut pas paniquer, il faut juste se dire qu'on a moins de chances de trouver son coup de cœur. Mais il est important de garder toute sa motivation, puisqu'on peut trouver facilement en août un logement si on est consciencieux et sérieux dans la constitution de son dossier.
Alors c'est quoi la bonne méthode? Alors vous allez me dire que c'est de passer par votre site, évidemment.
Alors,
mais il y en a peut-être d'autres aussi.
On peut passer par le premier site étudiant en France qui est aujourd'hui Immojeune.com, mais on peut, moi ce que je recommande, c'est pour les étudiants de rechercher sur des sites spécialisés. Donc c'est la recherche aujourd'hui se fait à 80% sur Internet chez les étudiants.
Oui.
Faut savoir aussi qu'il y a 3 millions d'étudiants chaque année en moyenne par an, et donc faut pouvoir les loger, et leur réflexe aujourd'hui, oui, c'est de faire leur recherche sur Internet.
Ça marche comment un site comme le vôtre? Quelle est la spécificité?
Alors nous concrètement, on met en relation les bailleurs, que ce soit particulier ou professionnel, avec les étudiants et jeunes actifs. Donc on est une plateforme de référencement qui référence aujourd'hui à peu près 300 000 offres dans toute la France, que à la location bien sûr. Et donc on redirige les candidatures de nos utilisateurs aux propriétaires, aux bailleurs, pour qu'ils puissent trouver leur locataire, et les étudiants pour qu'ils puissent trouver leur coup de cœur. Donc concrètement, on a un intermédiaire, une plateforme spécialisée pour les étudiants.
D'accord. Et qui paie quoi?
Alors aujourd'hui, notre business plan se fait sur la diffusion des annonces des professionnels de l'immobilier. Tout particulier aujourd'hui peut déposer son annonce gratuitement. Les utilisateurs, donc les étudiants et les jeunes actifs, peuvent se connecter gratuitement à Imogen et créer un profil pour qu'ils constituent leur dossier. Concrètement, mais c'est gratuit pour l'utilisateur, c'est gratuit pour le bailleur particulier. Et pour les professionnels pardon, de l'immobilier, ils payent un abonnement concrètement pour diffuser leur offre.
Oui, parce que eux, c'est leur business, donc c'est tout à fait logique.
Et puis, ils prennent des frais de dossier.
Vous avez le moyen de contrôler qu'il n'y a pas d'arnaque qui se glisse
C'est notre fer de lance.
Dans vos offres.
Exactement. Alors, on contrôle essentiellement les annonces venant des particuliers, puisque c'est gratuit. Donc, on a un système de modération qui permet de contrôler avec différents facteurs la véracité de l'annonce. Donc, on va contrôler le prix du marché, les photos, si elles sont déjà existantes sur Internet, la véracité des coordonnées, l'adresse mail, le numéro de téléphone. Voilà, on va contrôler donc par un système robotisé et derrière, il y a le facteur humain qui valide l'annonce, donc qui reprend vite fait l'annonce.
Mais est-ce que vous, par exemple, intégrez toutes les demandes des CROUS, enfin, toutes ces choses-là?
Alors, les CROUS n'ont pas de demande en soi, ils n'ont pas de problème de taux d'occupation.
Oui, ils doivent avoir beaucoup d'offres, quoi.
Voilà, ouais. Ils arrivent aujourd'hui à loger plus ou moins 15% de la totalité des étudiants, donc ils n'ont vraiment pas besoin de communiquer aujourd'hui, le CROUS. Ceux qui auront besoin de communiquer sont généralement les résidences privées, les agences immobilières, certaines aussi résidences publiques qui ont besoin.
Il y a beaucoup de résidences étudiantes privées.
Il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de constructions, de plus en plus de rachats. Et aujourd'hui, notre chiffre d'affaires évolue grâce à ça aussi, grâce à l'augmentation du parc de résidences étudiantes en France. Et oui, il y en a de plus en plus, mais toujours pas assez de place pour les étudiants. Ça ne suit pas l'évolution.
Je crois que pour les investisseurs, c'est intéressant, non, le fait d'investir dans des résidences étudiantes.
Tout à fait.
Il y a de la défiscalisation, non, derrière.
C'est dans l'air du temps, effectivement.
C'est ça, hein, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a des incitations fiscales.
Exactement, François, on propose de plus en plus d'investir pour les particuliers, surtout dans les résidences étudiantes.
Pierre est avec nous au 32-16, Christian. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Bonjour Pierre.
Bienvenue Pierre sur RMC.
Merci.
Alors vous souhaitez...
Je fais un peu de bruit, je suis en pleine moisson d'orge là.
Oula, la moisson d'orge.
La moisson d'orge.
Voilà. Pétard, bon, la bière pour les étudiants. Donc, on fait logement et boisson.
Alors là, en ce moment, ça, vous devez avoir du boulot.
Alors, vous savez qu'on est obligé de dire à consommer avec modération à la radio.
Oui,
comme ça, c'est dit.
Oui, l'orge, directement, on ne le consomme pas, quoi.
Oui, mais non. Après, si elle est fermentée, c'est notre histoire.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Pierre? Racontez-nous.
Eh bien, on est propriétaire, moi et ma femme, de deux logements étudiants. Ça fait 2 ans, on en a acheté un premier, un deux secondes, parce que ça marche plutôt pas mal. Il y a beaucoup de demandes. Puis voilà, c'est un bon investissement.
Et alors, ils sont sérieux, ces étudiants?
Voilà, est-ce que vous avez des frayeurs parfois quand vous sélectionnez des dossiers, des choses comme ça?
Pour l'instant, non. On va dire ça se fait au feeling. On voit les parents, après, si ils viennent avec leurs parents, qui se portent caution.
Justement, on va parler de ça.
On voit à qui on a affaire, les gens, la situation familiale, tout ça.
Et comment mettez-vous à disposition ces logements? Comment informez-vous les gens qui sont disponibles? Vous passez par quel site?
Sur Le Bon Coin, tout simplement.
Ah, Le Bon Coin. Là, je pense que notre invité doit être pas très content, hein, William. Le Bon Coin, ils sont terribles, ils concurrencent en fait le monde entier, Bon Coin.
Après, on se compare pas non plus au Bon Coin, mais c'est vrai que c'est un site beaucoup plus généraliste qu'Imogen. Nous, on est vraiment sur une niche,
les
étudiants, le Bon Coin...
Mais alors, le Bon Coin, il n'y a pas de contrôle, par exemple.
Il y a moins de modération, après, il y a beaucoup plus d'offres aussi. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de salariés qu'Imogen, en soi. mais oui, après, il y a tout type d'offres, donc il y a beaucoup plus de travail, de traitement derrière qu'on publie son offre sur le Bon Coin. C'est surtout ça.
D'accord.
Faire attention. Après, c'est vrai que chez les étudiants, il y a une info qui est très importante, c'est 2% d'impayés chez les étudiants.
Ah oui, donc c'est peu. De loyer. Si on compare ça à des locataires normaux...
C'est très peu. Ce sont des très bons payeurs. Généralement, c'est les parents qui sont derrière.
Oui, c'est les parents qui payent.
Oui.
Donc,
et quand c'est pas des parents...
Et puis ils ont des aides, ils ont les APL, des choses comme
ça.
Tout à fait. Aussi,
tout à fait.
On est d'accord.
Après, la seule contrainte, on va dire, pour le bailleur, c'est la vacance locative chaque été. Ils peuvent être un mois sans locataire pendant l'été. Et c'est souvent des baux courts d'un an.
Pierre, justement, on va en parler avec David Rodriguez.
Justement, Pierre, comment faites-vous? Vous louez à des étudiants différents chaque année? vous avez un break l'été, comment ça se passe? Ça doit être quand même une certaine logistique, non, à mettre en place?
Ben justement, il y a le préavis, suivant s'il est meublé ou pas, c'est 1 ou 3 mois. Et donc, dès qu'on a le préavis, que les locataires s'en vont, on le remet tout de suite sous le bon coin et on a vraiment tout de suite des visites parce que des étudiants, il y en a qui sont sûrs d'avoir le bac, des très bons élèves. Donc les parents, tout de suite, ils viennent visiter et même si c'est pas occupé le mois de juillet août, ils le prennent, ils le réservent et c'est,
ouais, c'est ça. Quoi. Ils louent de toute façon.
Oui, bien sûr.
Ils prennent. Il n'y a pas de vide de location.
Vous êtes dans quelle région? Vous êtes dans quelle région?
En Franche-Comté.
D'accord. Ah oui, dans le Doubs.
Voilà, ben les appartements sont à Besançon, dans l'Institut universitaire de Besançon.
Et voilà, il y a beaucoup d'étudiants là-bas, hein, donc forcément, il doit y avoir une demande forte.
Dans la cité universitaire, c'est-à-dire, il y a des parties privées dans la résidence, dans ce type de résidence?
Partie privée, c'est un immeuble, on a acheté 2 pièces. On a acheté à des particuliers également qui vendaient.
Ah, d'accord. Donc, ouais. Ah, c'est une bonne idée de placement. Ouais,
c'est un bon rendement. Est-ce que c'est un bon rendement aussi, les logements étudiants?
Oui.
C'est une bonne affaire. Au-delà du fait, bon, voilà, de se dire, bah, voilà, j'ai des étudiants, ça, c'est plutôt sympathique, mais est-ce que c'est une bonne affaire au niveau. Financier.
Alors, c'est une bonne affaire qu'on choisit bien la localisation de son bien. Si on vise des étudiants, mais on achète un bien de petite superficie qui sont généralement destinés aux étudiants, mais très loin d'une école, on ne va pas avoir d'offre.
En gros, il faut être près du logement.
Enfin, généralement, il faut être dans un rayon de 5 km autour de l'école pour attirer les étudiants.
Donc, il faut que ça soit près de l'école et puis près du bar à bière. Bien sûr.
Voilà.
En général, les bar à bière viennent à côté.
C'est
ça. Ils viennent à vous, là, dans ces cas-là.
Voilà, c'est ça.
La dernière fois, j'étais à Amiens, c'est dingue, mais autour du pôle universitaire, il n'y a que des bars. Il n'y a que ça. C'est incroyable. C'est un vrai business, quoi. C'est dingue. Bon, ben, très bien. Merci, Pierre. Juste une dernière question. Vous louez combien votre appartement, vos appartements?
Alors, c'est plutôt ma femme qui s'occupe de ça. Je vais vous dire lors des 360 euros, 70 euros avec les charges.
D'accord. Oui. Très bien.
D'accord. Il ne faut pas le payer trop cher quand même pour que ce soit rentable.
Oui, parce qu'autrement, voilà, il faut apprécier.
On préfère le faire pas trop cher, pas trop spéculer. Et puis, ça rembourse le prêt.
Ouais, mais c'est bien.
C'est plutôt un placement pour la retraite. Voilà, aujourd'hui, c'est plutôt, on pense pour la retraite. C'est pas,
d'accord.
Voilà.
C'est pas pour.
Oui,
c'est pas, vous avez... aujourd'hui, c'est non.
Ouais, voilà. Vous n'allez pas devenir milliardaire avec ça, on est d'accord. Mais il y a des incitations fiscales ou pas, Pierre, justement, dont vous bénéficiez?
Non, pas du tout, non.
D'accord, je crois que c'est sur le logement neuf.
T'as une petite échelle, donc non.
Voilà, c'est la loi Pinel,
tout à fait. Oui. Sur la défiscalisation. Après, on a d'autres sortes de défiscalisation. Il n'y a pas que la loi Pinel, il y a LMP, etc. Mais ça, c'est un vaste sujet.
Merci beaucoup, Pierre. Christian.
Eh bien, il faut qu'on ait David Rodriguez.
Alors, David Rodriguez est là, mais vous le savez, on va le retrouver dans un instant.
Dans quelques instants.
Voilà, on poursuit et on évoque le logement étudiant avec nos invités. Vous avez des questions sur ce sujet ou même des témoignages, hein. C'était intéressant ce que nous racontait Pierre.
Tout à fait.
3216 ou bien l'appli RMC Direct Studio avec votre numéro de téléphone. C'est le week-end des experts. C'est la maison. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 7h-8h, votre maison. RMC jusqu'à 8h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset.
Le retour du week-end des experts, la maison, et aujourd'hui on évoque le logement étudiant. Comment trouver un logement étudiant? Et en ce 10 août, mi-août hein, pratiquement, est-ce qu'on peut trouver encore des logements étudiants pour la rentrée? Christian, on en parle avec notre invité, William Vieillard, qui est responsable de Imogen.com, c'est le directeur général.
Tout à
Il
fait.
Il est avec nous en studio.
Et nous avons en ligne David Rodriguez de la CNCV, qui est juriste notamment spécialisé dans le logement. Bonjour monsieur Rodriguez.
Oui, bonjour Christian.
Bonjour.
Donc cette question du logement étudiant, évidemment, ça doit avoir des implications juridiques particulières. Notamment, on a entendu l'auditeur qui vient de nous appeler, qui a dit, ça dépend si c'est meublé, si c'est pas meublé. C'est quoi le contrat type, le bail type dans ce type de situation, de jeunes qui souvent ne vont pas reprendre forcément le même logement à la rentrée?
Le contrat qui est tout désigné, c'est le contrat de location meublée. Oui. Pourquoi? Parce que, comme c'était indiqué précédemment, vous avez une durée qui est plus faible, qui est déjà d'un an, alors que dans le cadre d'un contrat nu classique, c'est 3 ans.
Eh oui.
Voilà. Vous avez un délai de préavis qui est plus court, tant pour le bailleur que pour le locataire. Le bailleur, c'est un délai de préavis de 3 mois, le locataire, c'est 1 mois. Et puis surtout, lorsque l'on loue spécifiquement à un étudiant, il est possible de faire un contrat encore plus court, qui est plus d'un an, mais de 9 mois.
Ah oui.
Et dans cette hypothèse-là, donc dans le cas toujours d'une location meublée à un étudiant, le contrat est de 9 mois. Enfin, il peut, les parties peuvent décider qu'il sera d'un an, hein, mais il peut être amené à 9 mois. Et dans ce cas-là, la clause de reconduction tacite ne joue pas.
D'accord.
C'est-à-dire que normalement,
il n'y a pas besoin de préavis à ce moment-là, ça tombe automatiquement.
Tout à fait. Il n'y a pas de reconduction tacite, on sait qu'au bout du 9e mois, ce sera la fin du contrat.
D'accord. Mais là, est-ce qu'on peut le garder ? Est-ce que le propriétaire peut vous dire bah non, je ne reprends pas vous ?
Alors, après, je veux dire, rien
n'empêche. Il n'y a pas un droit de reconduction.
Dans cette hypothèse précise, non. Après, rien n'empêche les parties de se remettre d'accord, mais en signant un nouveau contrat,
bien
et
sûr,
avec éventuellement un nouveau loyer.
Bien
mais
sûr.
Si après, le bailleur, locataire, l'étudiant se disent « non, je vais peut-être rester plus longtemps », autant notamment la durée universitaire, hein, donc ça peut durer plusieurs années, donc ils peuvent très bien conclure un contrat d'une location meublée sur plusieurs années, voilà. Avec une reconduction tacite, ça pose pas de problème.
Mais avec ce contrat de 9 mois, voilà, que ce soit le locataire ou le propriétaire, personne ne prend d'engagement, finalement. C'est vrai que pour le propriétaire, en général, le locataire est très protégé,
évidemment.
Surprotégé. Là, il ne l'est pas avec ce contrat de 9 mois, l'a compris.
Alors, l'auditeur qui nous a appelé tout à l'heure, qui loue ses deux petits appartements donc, à des étudiants, il a évoqué, hein, l'ascension de gradier, est-ce qu'il y a un risque ? Il a dit, ah ouais, mais il y a les parents. Alors, justement, que peut exiger le propriétaire en matière de caution, de garantie ? Et d'un autre côté, est-ce qu'il y a d'autres solutions que les parents, je veux dire, parce que il faut en plus qu'ils soient eux-mêmes largement solvables.
Et oui. Alors, il y a un principe normalement, c'est qu'on cumule pas caution. Alors, je précise, la caution, c'est pas le dépôt de garantie. La caution, c'est la personne qui va s'engager à payer le loyer si le locataire ne paye pas. Donc, généralement, les parents. Donc, généralement, il y a interdiction de souscrire, d'appeler une caution et de souscrire une assurance impayée de loyer. À ceci près qu'on peut pas cumuler les deux. Ceci près que lorsqu'on loue à un étudiant, il est possible de cumuler. Donc, vous voyez, il y a encore des exceptions, des spécificités lorsqu'on veut louer un étudiant.
D'accord.
Donc, ça veut dire qu'en tant que bailleur, je peux souscrire une assurance à payer le loyer et appeler une caution personne physique pour le locataire, donc pour l'étudiant, donc les parents. Les locataires, donc notamment les jeunes, peuvent aussi bénéficier du dispositif Visa, hein, qui est proposé par Action Logement et qui est vraiment dédié aux jeunes et notamment aux étudiants. C'est-à-dire qu'il y aura, là encore, un cautionnement, une prise en charge, en quelque sorte, des impayés.
Et j'ai vu qu'il y avait aussi des structures privées qui proposent ça. J'ai même vu que la BNP, par exemple, avait lancé en juin un arsenal, je veux dire, à la fois.
Après, il faut faire attention. Effectivement, il y a des structures privées qui se mettent en place. Alors, nous, on voit ça avec énormément de réserves, parce que parfois ces structures privées, elles n'ont pas toutes le même type de fonctionnement, mais sont payantes vis-à-vis du locataire. Visa, c'est un dispositif qui est exclusivement gratuit, intégralement gratuit pour le locataire. Et de fait, il y a des services de cautionnement qui peuvent certes accompagner, on va dire, le locataire, mais à contre-rémunération, de sorte le locataire va, en grosso modo, payer l'assurance impayée de loyer du bailleur. Il y a un transfert de charges.
Mmh.
Donc, sachant que là, on s'adresse en plus à des étudiants, donc un public qui est plus fragile économiquement. Donc, c'est pour ça, il peut être parfois préférable de se rapprocher en plus des dispositifs gratuits existants.
La garantie, elle peut être de combien au maximum ?
Alors après tout dépend, hein. Alors la garantie, le dépôt de garantie dans le cas d'une location classique, c'est l'équivalent d'un mois de loyer hors charge. Dans le cas d'une location meublée, par exception, parce qu'il y a quand même le mobilier, il est là l'équivalent de 2 mois de loyer hors charge également.
Très bien. Est-ce que notre invité veut rajouter quelque chose sur ce sujet ? Il y a des précisions en plus que vous lui apportez ?
Petite précision sur la garantie visale. Pour être éligible, faut avoir moins de 30 ans pour les étudiants, peu importe la situation professionnelle. C'est généralement le cas. Pour les jeunes actifs qui ont plus de 30 ans, ça dépend là de leur situation professionnelle. Il faut qu'ils soient salariés, etc. Donc il y a quand même une analyse
à faire pour
octroyer l'éligibilité à cette garantie. Mais en soi, oui, s'ils n'ont pas cette possibilité d'avoir la garantie visale, ils peuvent se retourner, alors soit vers des garants physiques, mais s'ils n'en ont pas, via des entreprises spécialisées.
Oui, David, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, je dirais qu'il faut faire attention parce que vous avez des entreprises spécialisées qui préconisent, enfin, qui permettent notamment le fait de bloquer l'équivalent de 6 mois ou 1 an de loyer. Donc ça, c'est vraiment des pratiques à bannir, surtout que la légalité est vraiment, on est vraiment borderline sur ces points. Et là encore, c'est payant pour le locataire. Ensuite, il ne faut pas oublier, si on est dans le cadre d'un logement meublé, c'est de la palissade, mais pour que le logement soit meublé, il faut qu'il y ait des meubles. Donc une table avec 3 chaises autour, ça ne suffit pas.
Ce ne sont pas des meubles.
C'est des meubles en nombre insuffisant. Genre, il vous faut la vaisselle, il vous faut des sièges, des étagères de rangement, il vous faut des luminaires.
La literie, des dispositifs. Important.
Et oui, il vous faut un four, une plaque de cuisson.
Alors évidemment.
Donc on a toute une liste, hein, un réfrigérateur, donc on a toute
une liste du mobilier. On peut l'obtenir auprès de la CLCV, ça ? La liste ?
Ah, mais bien sûr. Hein. De toute façon, c'est un décret, donc vous pouvez l'obtenir tout à fait sans problème en regardant sur Internet. Hein. Donc vous avez un décret du 31 juillet 2015 qui va vous fixer effectivement toute la liste du mobilier minimal qui doit être compris dans le logement pour qu'il soit qualifié de meublé.
Attention.
L'idée, c'est que le locataire vienne avec ses affaires et n'ait pas à faire d'achat supplémentaire. Après, on n'a pas, on va dire, la literie pour des questions d'hygiène, par exemple. Quoi. Genre le linge ou...
Bien sûr. Attention aux états des lieux aussi, parce que les jeunes, des fois, c'est faut pas mettre des clous partout, du scotch qui arrache la peinture.
Tout à fait. Donc, il faut faire attention à l'état des lieux d'entrée. Il faut être très vigilant sur l'état des lieux d'entrée. Pour que ce soit le plus précis possible. Souvent, on dit bon état général, sauf que l'état des lieux de sortie s'avère au final extrêmement précis. Donc non, je veux dire, s'il faut mettre 1 heure pour faire un état des lieux d'entrée pour un petit appartement, c'est pas grave. Parce qu'il faut qu'il soit vraiment précis,
Bien sûr.
Clou près, à la rayure près, à
au clou
près. Et oui, on va vous demander...
Oui, David, je pense qu'après
après le retirer.
Et oui, bien sûr. Et je pense que le propriétaire, lui, il veut il veut qu'on lui restitue un appartement nickel. Donc, forcément, après, il peut être en droit de, je sais pas moi, on a cassé une chaise ou on a
abîmé une plaie. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'état d'entrée et de sortie, c'est aussi protecteur tant pour le bailleur que pour le locataire.
Bien sûr.
Parce que comme ça, tant le bailleur que le locataire pourront dire, attendez, je vous ai remis un logement en bon état, vous me le rendez. Peu entretenu ou dégradé. S'il y a des éléments qui manquent, ça sera au détriment du locataire ou du bailleur dans les deux cas. Donc, c'est vraiment dans l'intérêt des deux parties. Et comme on est dans une location meublée, il ne faut pas oublier. Donc, je vous ai dit qu'il y avait la liste, il existe une liste minimale de mobilier. Ben, il y a un inventaire qui doit être annexé à cet état des lieux pour préciser, comme en camping, il y a combien de petites fourchettes, il y a combien de petites cuillères,
un inventaire.
Combien d'assiettes. Donc, on a un inventaire du mobilier.
Et puis rendre l'appartement propre, parce qu'autrement, là
tout
aussi, on peut se retrouver avec des frais de ménage facturés.
Voilà.
Merci beaucoup, David.
Merci, David Rodriguez. Je rappelle, vous êtes juriste à la CLCV.
Et merci.
Merci
à William Vieillard, donc responsable de Imogen, directeur général d'Imogen. Merci.
Merci à vous. Merci pour votre invitation.
Imogen.com.
Je vous invite à retrouver toutes nos offres. Il y a encore plein d'offres disponibles.
On va les voir.
Parfait. Allez-y. Merci.
Enfin, même si on n'est plus tout à fait étudiant avec Christian, mais on peut regarder pour la famille.
Oui, bien sûr.
Hein, Christian ? Tiens, nous avons au 32-16 Claude qui est là, qui nous attend. Bonjour Claude.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour Claude.
Bienvenue monsieur Claude.
Merci, c'est sympa.
Bon, Madame Claude va bien ?
Ça va très bien.
D'accord.
Très bien votre émission. Dites-moi, je suis dans le Gers. Je suis dans le Gers. Ben, je souhaite acquérir un chalet de loisirs de moins de 40 mètres carrés sur deux niveaux. L'ossature est faite en planche collée d'une épaisseur de 7 cm ainsi que les cloisons. Alors moi, je suis un peu inquiet, c'est suffisant pour l'isolation thermique et puis je vais mettre une cuir réversible.
Alors non, c'est pas suffisant pour l'isolation. Hein, ça dépend si vous y venez pour le week-end quand il fait beau ou si vous voulez de temps en temps y habiter un peu. Donc non, c'est pas suffisant. Alors le bois, si vous voulez, est réputé pour être un bon isolant, c'est vrai.
Mais
lorsqu'on parle, vous savez, de lambda, qui est le coefficient, donc on va dire d'efficacité en la matière, pour vous donner un exemple, le bois c'est 0, entre 12 et 20. Et plus c'est bas, mieux c'est. Hein. Et un isolant, c'est 0,032, par exemple. Vous voyez la différence. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça soit isolé. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, il n'y a déjà pas beaucoup de place. Si vous mettez 20 cm d'isolant, ce qu'il faudrait y mettre, ça va empiéter beaucoup votre surface. Alors, ce que font certains, c'est d'utiliser de la mousse de polyuréthane projetée. Alors il y a des isolants très performants, hein, plus minces, mais qui coûtent une fortune. Donc en revanche, j'ai vu faire avec de la, mettons 5-6 cm, 10 cm maximum pour pas trop empiéter, mais en gros, entre 5 et 10 cm de polyuréthane projeté et remettre dessus donc un doublage, par exemple en frisé de bois, pour que ce soit sympathique. Et là,
c'est tout bois, quoi. C'est
Oui, mais mettez de la... vous pouvez toujours mettre de la laine de bois, mais si vous mettez de la laine de bois, il faut que vous mettiez 20 cm.
Non, mais quoi qu'il en soit, dans mes 7 cm, ça ne sert à rien, quoi.
Vos 5 cm de bois, ils 7, servent à 7, ou 7 ou 8. Il vous faudrait. Alors, les maisons en bois qui sont véritablement isolantes, ce sont les maisons qui sont en tronc d'arbre, ce qu'on appelle les fustes. Alors là, celle-là, parce que vous avez effectivement 20 ou 30 cm de bois. Mais là, ça suffira pas pour être véritablement isolant. Hein, alors, si vous avez un petit peu de sous, mais je pense que si vous avez ce genre de bâtiment, c'est que vous n'avez pas de quoi dépenser des fortunes. Sinon, il y a des isolants, par exemple, comme le VIP, qu'on appelle aujourd'hui, qui est un isolant sous vide.
Vous parlez de moi.
Vous avez effectivement une très bonne isolation, mais je dirais que
le but, c'est une maison secondaire, entre guillemets. C'est un chalet de loisirs, quoi.
La meilleure des solutions, c'est celle que je vous ai donnée, c'est-à-dire prendre l'isolant non fibreux, certes d'origine pétrolière, mais qui a la meilleure isolation possible.
Hein. Entre guillemets, si je mets une clim réversible, ça va me coûter de la tête, quoi, c'est ça?
Vous pouvez. Non, mais ça n'a rien à voir. Si vous mettez une clim réversible qui a fonctionné en chauffage, donc l'hiver, effectivement, et que votre maisonnette n'est pas isolée, ça va être chaud, parce que à ce moment-là, autant y mettre des radiateurs électriques. Hein.
Ouais, mais ils y sont déjà.
Bon, ils tourneront beaucoup.
Ouais, voilà. L'hiver, l'été, fait toujours. Mais c'est sympa à vous, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci,
Claude. Et vous saluerez madame, parce que tout à l'heure, ma blague est passée un peu à la trappe.
Oui,
c'est pas grave, de temps en temps,
c'était d'un goût douteux quand même.
Pourquoi?
Bon, écoutez, on voit que ça vous rappelle votre jeunesse, quand vous fréquentiez ce genre d'établissement.
Je ne vois pas de quoi vous parlez.